La matinale d'Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et je suis ravi comme chaque matin de vous accompagner. On va vous raconter le monde qui change à vitesse grand V, V comme vendredi, le week-end approche, les grasses mat' aussi, les ciné entre amis, les galipettes au lit, et pas l'inverse, enfin... Vous faites ce que vous voulez, hein, ça ne me regarde pas. Quoi qu'il en soit, la ligne d'arrivée approche et on va se faire un plaisir de vous y accompagner en info, en musique. Et quelle musique ? Et bien voilà qui met la pêche, n'est-ce pas, Ombline Roche?
Oui, effectivement.
C'est pas fini. Bonjour Ombline.
Bonjour, bonjour Julien, bonjour à tous.
La musique ce matin continue avec votre partition à 6h-10, quel est le programme?
Un groupe qui, en 6 albums, a écrit une partie de l'histoire du rock en France, l'un des groupes les plus influents des années 80 et 90. Un double album acoustique sort aujourd'hui, on parle de Noir Désir.
J'ai douté des détails, jamais du temps
La partition de Bibline, c'est à 6h-10 sur Europe 1.
Ma mère va pas être contente hein, si on va pas comme ça.
J'ai peur. L'actualité ce matin, c'est ce bilan du coronavirus en forte hausse en Chine. Il est désormais de 25 morts contre 18 quelques heures plus tôt. Plus de 800 personnes contaminées. Un deuxième cas suspect aux États-Unis. Pékin met sous cloche une vingtaine de millions d'habitants de la région de Wuhan et annule les festivités du Nouvel An chinois. Journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, épisode 7, avec la présentation ce matin du projet de loi en Conseil des ministres. Trafic peu perturbé à la SNCF. Beaucoup plus compliqué, en revanche, à la RATP. Et puis j'ai décidé ce matin de faire un focus sur les voitures électriques. On a appris hier que Tesla a dépassé en bourse le seuil symbolique des 100 milliards de dollars. La marque américaine devient en capitalisation le deuxième constructeur mondial devant Volkswagen. Alors l'électrique est-elle en train de tailler des croupières au thermique? On en parlera avec mon invité à 5h40, François Tarin, rédacteur en chef adjoint du magazine Auto Plus. Je n'oublie pas votre pressing dans une vingtaine de minutes. Le meilleur de la presse du jour avec au menu un Shazam pour fromage, le lac du Connemara version comédie musicale et de la pub dans la voûte céleste. Et en parlant du ciel, tiens, les étoiles entre elles ne parlent que de lui. Laurent Cabrol, bonjour, ça bouge dans le ciel, Laurent.
Bonjour Ombline, bonjour Julien et bonjour à tous. Oui, le temps change un tout petit peu, mais suffisamment tout de même pour libérer les régions marquées par les inondations. La pluie maintenant se décale vers les régions du sud-est, nous en parlerons tout à l'heure. Et puis pour d'autres raisons, de nouvelles intempéries arrivent, mais de faible intensité, cette fois sur les côtes bretonnes. Et les températures aujourd'hui vont se situer entre 6 et 12 degrés. Finalement, ce n'est pas trop mal.
Pas trop mal. Merci beaucoup Laurent Cabrolet. À tout à l'heure. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Julien. Bonjour à tous.
C'est l'heure de votre journal et de lancer la matinale d'Europe 1. On est vendredi. C'est parti.
Europe 1, il est 5h.
Bien sûr qu'on est fatigué, mais on est toujours déterminé. C'est notre vie, c'est notre peau qu'on défend, nous. Pour ça qu'on lâchera pas.
Le retour des cortèges contre la réforme des retraites, appels à la grève et aux manifestations partout en France aujourd'hui alors que le projet de loi est présenté en Conseil des ministres.
C'est aussi le retour des perturbations dans les transports publics, surtout à la RATP.
25 morts, le bilan de la pneumonie chinoise grimpe encore, 20 millions de personnes confinées, mais pas de plan d'urgence international a finalement tranché l'Organisation mondiale de la santé, notamment pour des raisons économiques.
On était au niveau de 57 milliards de dollars de pertes du commerce. Je comprends que l'expertise qui est autour de l'OMS attend un petit peu de voir.
Dans ce journal, Ségolène Royal veut être l'alternative au duel Macron-Le Pen pour 2022. L'ancienne ministre le dit sur Europe 1.
Et puis ces chirurgiens sans scalpel ni bistouri.
On a l'impression d'être un peu le docteur Maboul ou de devoir tirer des pièces. On se dit, mais il y a peut-être autre chose à faire avant, il y a peut-être d'autres techniques.
On vous explique en fin de journal la radiologie interventionnelle, la manière douce pour des pathologies dures.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Julien Pierce, Jérôme Lacroix.
Après 51 jours, 7 semaines de grève, le projet de loi de la réforme des retraites est aujourd'hui à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Une étape importante qui donne aussi le coup d'envoi des débats sur le fond du projet à l'Assemblée nationale à partir du 17 février.
Et justement, que contient-il ce texte tant décrié? On y voit plus très clair. Eh bien, François Geffrier l'a étudié pour nous.
64 articles, 141 pages et d'abord la fin des 42 régimes de retraite existants, même si, notamment pour les marins, le texte précise que ce sera réglé plus tard par ordonnance. Le projet de loi explique le système du point, mais ne fixe pas sa valeur. Combien devra-t-on cotiser pour gagner un point ? Et une fois qu'on est à la retraite, quelle somme d'argent ce point nous rapportera ? Ces montants seront fixés par la future Caisse nationale de retraite universelle. Précision, article 9, la valeur du point ne pourra pas baisser. Et ce, malgré la règle d'or, inscrite un peu plus loin, qui impose au système d'être toujours équilibré sur des périodes de 5 ans. Dans ce texte, un âge d'équilibre est bel et bien prévu. Ce n'est plus celui que proposait Édouard Philippe dès 2022 pour équilibrer le système actuel, mais c'est tout de même un principe de bonus-malus applicable en 2037 et qui dépendra de l'espérance de vie. Cet âge d'équilibre sera fixé lui aussi par la future Caisse nationale. Enfin, plusieurs articles autorisent le gouvernement à agir par ordonnance, notamment pour définir comment se passera la transition du système actuel vers le système universel.
Et les débats à l'Assemblée nationale donc à partir du 17 février, premier vote prévu début mars. Il sera aussi question du financement de la réforme et de l'équilibre du système. La conférence de financement entre partenaires sociaux débutera d'ailleurs jeudi prochain. C'est ce qu'annonce le Premier ministre Édouard Philippe dans un entretien ce matin au journal La Croix.
Et aujourd'hui, cet appel national à la mobilisation, cortège de l'intersyndicale prévu à Nantes, Lyon, Caen, Toulouse et à Paris. Départ 11h depuis la place de la République, direction la Concorde.
Dès hier, les contestations ont pris la forme de retraites au flambeau, comme à Rennes, environ 1500 personnes qui n'entendent pas baisser pavillon au micro de François Coulon.
J'y crois encore, en tout cas j'irai jusqu'au bout et on verra ce qui se passera après. Mais même si on ne gagne pas, je continuerai à me battre parce que si je ne me bats pas, je suis sûr de ne pas gagner.
Bien sûr qu'on est fatigué, mais on est toujours déterminé. Donc je pense que ça va être une affaire au long cours. Et moi j'y crois et on sera là, toujours, toujours là. Et même si c'est compliqué, même si effectivement on est fatigué. On est dans une guerre de tranchées, mais c'est notre vie, c'est notre peau qu'on défend nous. C'est pour ça qu'on lâchera pas.
C'est juste une question de survie. Donc on n'a pas le choix, il faut qu'on gagne, il faut qu'on tienne. Et je pense que c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire que de jouer le pourrissement, c'est hyper dangereux. Donc si le gouvernement veut jouer le pourrissement, ça va fermenter et ça risque d'exploser. On est sur une forme de guérilla où on invente autre chose. C'est pas parce que là on est moins nombreux. Ça ne veut pas dire que dans les têtes, il n'y a pas de détermination.
L'intersyndicale appelle au blocage total dans les transports. Dans les faits, ce ne devrait pas être tout à fait le cas. Trafic normal des TGV, 7 TER et 7 intercités sur 10. En Ile-de-France, comptez 6 transiliens sur 10.
La RATP prévoit un trafic en revanche perturbé sur au moins 5 lignes du métro parisien, dont la 13. Enfin, sachez que la CGT Énergie a décidé les mises à l'arrêt depuis hier soir de 3 incinérateurs de déchets près de Paris, dans le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Voilà qui pourrait perturber le traitement des déchets pour plus de 80 communes d'Île-de-France, 6 millions d'habitants.
Europe 1, il est 5h04.
La décrue a commencé dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Après 3 jours de pluies incessantes, l'équivalent de 4 mois de pluie, les deux départements restent toutefois en vigilance orange aux inondations.
Mais l'eau est parfois montée à plus d'un mètre dans les maisons. Les sinistrés commencent l'évaluation des dégâts.
25 morts en Chine, bilan de la pneumonie encore revu à la hausse cette nuit. Plus de 800 cas annoncent les autorités chinoises.
Mais pas de plan d'urgence de santé publique internationale, tranchent les membres de l'Organisation mondiale de la santé après 2 jours de réunion en Suisse.
Alors pourquoi l'OMS a-t-elle décidé de ne rien décider alors que l'épidémie progresse ? Élément de réponse avec Simon Rubin.
Si l'OMS a choisi de ne pas décréter l'urgence de santé publique internationale, c'est d'abord pour une raison majeure. Le virus n'est pas jugé comme un danger mondial. Sa transmission reste limitée et l'essentiel des cas reste basé en Chine. Mais si l'OMS ne veut pas prendre une décision hâtive, c'est aussi en raison du coût d'une telle mesure. Décréter l'urgence sanitaire internationale, cela pénalise automatiquement l'économie mondiale. Gilles Pialou, infectiologue à l'hôpital Tenon, rappelle l'exemple de l'épidémie de SRAS en 2003.
On était au niveau de 57 milliards de dollars de pertes du commerce. C'est sur les marchandises, sur les rapatriements sanitaires, sur les transports aériens, sur le contrôle aux frontières. Sur, par exemple, on prend Ebola sur les funérailles. Je comprends que l'expertise qui est autour de l'OMS attend un petit peu de voir.
Évidemment, plusieurs dizaines de milliards d'euros ne constituent qu'une goutte d'eau pour une économie mondiale plus de 1000 fois supérieure. Mais on comprend mieux pourquoi l'OMS préfère rester prudente. À l'enjeu de santé qui est prioritaire, s'ajoutent malgré tout des enjeux économiques, sociaux, politiques qui ne peuvent pas être ignorés.
Les festivités du Nouvel An chinois annulées à Pékin, la cité interdite de fermer dès demain aux visiteurs et 20 millions d'habitants en quarantaine, 20 millions dans Wuhan et ses environs. Personne ne doit en principe quitter cette zone qui est l'épicentre de l'épidémie.
Wuhan qui abrite par ailleurs plusieurs milliers d'expatriés français. La plupart travaillent dans le secteur de l'automobile, une centaine d'entreprises tricolores. Jean-François Roche dirige l'une d'entre elles. Il raconte une ville de Wuhan figée.
Concrètement, ça change mon agenda et celui de mes équipes. Nous avions prévu d'être dans une délégation de 6 ou 7 collaborateurs qui partaient à Wuhan juste après le nouvel an chinois, donc la première semaine de février. Et donc, à ce jour, tout est mis à l'arrêt et nous attendons de voir comment va évoluer la situation. C'est du retard sur les programmes actuels et donc cela veut dire que les réunions qui devaient se tenir ne pourront pas se tenir de visu telles qu'elles étaient prévues. Mais tout ne peut pas se régler à distance. Et donc, jusqu'à nouvel ordre, les déplacements étant considérablement réduits, nous devrons soit mettre en panne certains programmes en attendant des instructions nous permettant soit de revenir, soit qu'eux puissent venir chez nous.
En France, aucun cas signalé. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, annonce un test rapide de diagnostic disponible dans les hôpitaux, dit-elle, dès la semaine prochaine.
Et au Texas, enquête en cours sur un possible second cas aux États-Unis.
Emmanuel Macron souhaite un procès pour le meurtre de Sarah Halimi. Le président l'a dit hier en Israël devant des expatriés français.
Sarah Halimi, sexagénaire juive, assassinée en avril 2017 à Paris. Le suspect a été déclaré pénalement irresponsable par la justice le mois dernier.
Une alternative au duel Macron-Le Pen sur Europe 1 hier. Ségolène Royal n'a pas caché son ambition pour le scrutin présidentiel de 2022. Elle est depuis hier à Marseille au soutien de Samia Ghali, candidate à la mairie de la ville.
L'ancien ministre de l'écologie sur le terrain, elle lance sa nouvelle association Désir de France. Comme un parfum de campagne, tout cela à Marseille pour Europe 1, Nathalie Chevance.
Je suis très heureuse d'être à Marseille, c'est une question d'opportunité.
Elle vient sentir le terrain, humer une campagne, celle des municipales, en attendant peut-être la présidentielle de 2022. Ségolène Royal ne s'interdit rien, l'ambassadrice des pôles limogés cogne sur la brutalité du gouvernement. La troisième voie qu'elle souhaite incarner sera celle de l'apaisement.
On ne reconnaît plus la France telle que nous l'aimons. Je crois qu'il y a une urgence à convaincre les citoyens de ne pas désespérer et de se dire vraiment qu'il y a d'autres solutions et d'autres façons de faire. On a un gouvernement qui désécurise et en faisant toujours payer les moyens et les petits.
Désir de France, son association n'est pas encore un parti politique, mais pour Patrick Menucci, qui était son directeur de campagne en 2007, il y a une place à prendre sur l'échiquier.
Elle dit qu'elle est en train de se préparer. Si un rassemblement, elle sera candidate. Évidemment qu'elle aurait raison. Il faut une alternative à cet affrontement entre Emmanuel Macron et le Front National.
Et sa popularité chez certains électeurs de gauche reste au sommet.
Je pense qu'elle a toutes ses chances en 2022. Après, bon, je pense que c'est un peu trop tôt pour se prononcer.
C'est pas une femme du passé ?
Je pense qu'aujourd'hui, il faut être expérimenté.
Et après l'environnement hier, Ségolène Royal sera ce matin auprès des agents hospitaliers pour la défense des services publics. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et Ségolène Royal qui devrait être officiellement démise de sa fonction d'ambassadrice des pôles aujourd'hui. Invitée d'Europe 1 hier soir, elle accuse le gouvernement de la, je cite, débarquer d'une mission qu'elle a toujours menée avec, je cite encore une fois, beaucoup de soins.
Le parquet antiterroriste saisi après hier à Épinal l'arrestation d'un homme et de sa compagne. Des engins explosifs artisanaux ont été découverts à leur domicile. Le suspect sorti de prison il y a quelques semaines et fiché S, Alain Acco.
Au départ, il s'agissait d'une simple visite domiciliaire, ce qu'on appelait avant une perquisition administrative, pour vérifier un vague signalement. Les policiers du renseignement territorial avaient entendu dire qu'un habitant d'Épinal s'était vanté, il y a quelques semaines, de savoir manipuler des explosifs. Or, cet homme de 48 ans est fiché S pour radicalisation. Il est connu depuis longtemps, notamment pour ses relations avec le groupuscule Forza Analisa, qui a été dissous en 2012. Cet homme est sorti de prison il y a environ 6 mois. Il était incarcéré dans une affaire de trafic de drogue. Quand les policiers du commissariat d'Épinal ont débarqué chez lui, le suspect n'était pas là. Il a été arrêté quelques heures plus tard, sur son fauteuil roulant, car il est handicapé. Sa compagne a aussi été placée en garde à vue, car dans la cave de leur immeuble, on a trouvé des engins explosifs artisanaux qui étaient, paraît-il, prêts à l'emploi. Le parquet national antiterroriste a donc ouvert une enquête qu'il a confiée à la DGSI, à la SDAT et à la police judiciaire de Strasbourg.
Et puis à Brest, après les 7 arrestations révélées lundi par Europe 1, l'enquête se concentre sur un réfugié né en Syrie et soupçonné d'appartenance à l'État islamique.
L'espoir de retrouver vivant les 5 touristes disparus au Québec s'amenuise d'heure en heure lors d'une sortie à Motoneige. Le poids de la glace d'un lac gelé a cédé sous leur engin sur une zone hors piste.
Hier, 4 motoneiges ont été retrouvés sous l'eau, semblant confirmer l'hypothèse d'une noyade.
Donald Trump s'est pris pour un roi et il mérite pour cela d'être destitué. Les mots de l'élu démocrate Jerry Nadler hier au procès à Washington du président américain.
Les charges de l'accusation avant, à partir de demain, la parole à la défense.
Europe 1, il est 5h11.
On vous raconte l'histoire de ces chirurgiens sans bistouri ni scalpel, les adeptes de la radio. radiologie interventionnelle, une alternative aux opérations parfois lourdes.
Comme une ablation de l'utérus ou de la prostate, la radiologie interventionnelle préconise des prélèvements ou des injections. Pour Europe 1, Victor Delande nous fait découvrir cette spécialité méconnue du grand public à l'hôpital Georges Pompidou à Paris.
Guylaine, 46 ans, a connu il y a 2 ans des règles très abondantes, 10 jours par mois. Son gynécologue lui diagnostique un fibrome utérin, une tumeur non cancéreuse, bénigne donc, mais très inconfortable. Il lui conseille immédiatement une ablation de l'utérus.
Je n'étais pas prête du tout à supporter cette nouvelle. On a l'impression d'être un peu le docteur Maboul ou devoir tirer des pièces. On se dit, mais il y a peut-être autre chose à faire avant, il y a peut-être d'autres techniques.
Après une consultation avec un radiologue interventionnel, on lui préconise ce qu'on appelle une embolisation. Marc Sapoval, radiologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, nous emmène au bloc opératoire. Il nous explique cette technique.
On va naviguer dans les artères au moyen d'un cathéter qu'on va manipuler.
Face à lui, un immense écran qui l'aide à être encore plus précis. Il injecte à la patiente des mini-billes dans le fibrome.
Les billes vont asphyxier les fibromes, donc ils vont mourir et la patiente va avoir une amélioration de ses symptômes lors de ses prochaines règles.
Après cette opération, Guylaine n'est restée qu'une seule nuit à l'hôpital. Elle a pu retravailler une semaine plus tard. Aucune cicatrice et surtout, elle a conservé son utérus.
Et puis l'auberge du Pont de Collonges rouvre ses portes aujourd'hui avec une partie des locaux modernisés. Le restaurant était fermé pour travaux, mais avec une étoile en moins cette réouverture. Le restaurant de feu Paul Bocuse, dégradé par le guide Michelin la semaine dernière.
On passe au sport, Jérôme Lacroix, avec à la une ce matin le NBA Show à Paris.
Ah oui, c'est ça, la NBA aux États-Unis. Et ce soir, pour la première fois, un match du si puissant championnat nord-américain de basket se tient en France. À ma gauche, les Milwaukee Bucks. À ma droite, les Charlotte Hornets.
Sont
propriétaires de ce dernier, Michael Jordan. Ils ne tiendraient pas tous dans le studio, c'est trop. 15 000 personnes attendues à Paris-Bercy pour cette rencontre délocalisée. C'est du business. Minimum 65 euros la place. Dans la foule ce soir, il y aura une famille française et singulière. Stéphanie, Gigi et leurs 3 garçons. Ils se disent basket addict. Ils ont récemment parcouru les États-Unis pour assister à des rencontres et ils ont eu l'opportunité de rentrer en France le temps du match de ce soir.
On a été invité par la NBA en fait à venir ici.
Et on repart lundi à New York, récupérer le camping-car et continuer le périple.
On attaque par Charlotte, Washington, ensuite on va à Miami, après on fait Orlando, Atlanta, la Nouvelle-Orléans. Après on va sur le All-Star Game à Chicago. L'ambiance, l'envers du décor, la salle, tout ce qu'on découvre à chaque étape, ça reste magique quoi. Un rêve d'enfant, de le vivre avec ses enfants.
Vive le basket !
Voilà, vive le basket, Milwaukee, Charlotte. Premier match NBA de saison régulière organisé en France. Coup d'envoi, 21h. Alors à la télé, c'est sur beIN Sport. Le directeur de la rédaction, Florent Ouzo, et le consultant Jacques Monclar, invité de Philippe Vandel ce matin, Culture Média, dès 9h.
Et la NBA a déjà annoncé un autre match en France pour l'année prochaine.
23 matchs, 22 victoires. Le super bilan des footballeurs de Liverpool en championnat d'Angleterre. Premier du classement avec 16 points d'avance sur les dauphins Manchester City grâce à hier. Un succès de 1 de Liverpool contre Wolverhampton.
Le chiffre du jour.
6. On parle de patinage artistique et de l'un des meilleurs couples du monde. Les Français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron enquêtent cette semaine en Autriche d'un 6e titre consécutif de champion d'Europe. Ce serait du jamais vu. Pour l'heure, ils sont premiers d'un classement provisoire après la première épreuve hier, la danse rythmique. Il y avait du rose, du turquoise dans leur tenue respective, très années 80 pour une prestation atypique sur la bande originale du film Fame. Seconde épreuve de danse libre demain pour peut-être le sacre.
On l'espère. Ah oui. Merci beaucoup Jérôme Lacroix, et à tout à l'heure pour un nouveau journal des sports.
Europe 1, il est 5h15.
Et c'est l'heure des courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Pau et mon pari gagnant sera le 309 Speed Chance. Volontairement ménagé cet hiver après 2 bonnes courses de début à Toulouse où il n'a été devancé que par des poulains de qualité, il est désormais en pleine croissance et visiblement épanoui. Il effectuera donc cet après-midi une rentrée très attendue avec un seul objectif, remporter sa première victoire. Notez bien, pour Pau, réunion 1, dans la 3e course, le numéro 9, Speed Chance.
Speed Chance, c'est noté Thierry Léger, et à tout à l'heure pour vos pronostics du Quintet.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, votre pressing, il sera odorant, mais délicieux, et lumineux, mais effrayant. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Europe 1, il est 5h16, l'essentiel de l'actualité ce 24 janvier, Julien Pierce.
Après 51 jours, 7 semaines de grève, le projet de loi de la réforme des retraites est aujourd'hui à l'ordre du jour du Conseil des ministres à 10h. L'intersyndicale appelle à la mobilisation nationale. Cortège prévu à Nantes, Lyon, Caen, Toulouse et à Paris. Départ 11h depuis la place de la République, direction la Concorde. Retour des perturbations dans les transports, surtout à la RATP. Et puis 25 morts en Chine, bilan de la mystérieuse pneumonie encore revue à la hausse cette nuit. Plus de 800 cas, annoncent les autorités chinoises. On apprend à l'instant qu'une deuxième mort a été confirmée en dehors de la région de l'épicentre, région de Wuhan. Mais l'OMS a pris la décision de ne pas en prendre. L'épidémie n'est pas en urgence de santé mondiale, estime l'OMS.
Europe 1, le 5-6, Julien Pierce.
Une énergie incroyable vient de s'emparer de ce studio. C'est typique du vendredi, ce baroud d'honneur avant la quille. Ils sont là avec leur mine réjouie, déjà en train de penser à leur lit. Minute les amis, on va d'abord presser la presse pour en extraire les meilleurs articles. C'est le pressing avec Omblin Roche et Paul Lassen qui nous a rejoint.
Bonjour.
Bonjour Paul.
Bonjour, bonjour.
Honneur aux demoiselles ce matin. Omblin, on vous écoute.
Voilà une nouvelle qui va ravir les fans de Michel Sardou.
Terre brûlée. Au vent.
Non. C'est vrai, il revient à la musique, il sort un nouvel album.
Est-ce que vous faites bien ? Non, Julien, mais je vois que vous êtes bien informé. Effectivement, Michel Sardou est retraité de la chanson, il se consacre désormais à ses autres passions, comme le théâtre. La bonne nouvelle, c'est Michel Sardou en comédie musicale.
Ne m'appelez plus jamais.
C'est aujourd'hui en France qui nous l'apprend, Franck Montel et Roberto Siurleo, à qui on doit les spectacles Robin des Bois, vous savez, avec M. Pokora, et Bernadette de Lourdes, ont eu l'autorisation du chanteur, une comédie musicale à la Mamma Mia, basée sur les chansons d'Abba, c'est pareil. Le show sera donc rythmé par les tubes de Sardou. L'idée a beaucoup plu au principal intéressé, car non seulement Michel Sardou a dit oui, mais il a lu l'histoire et il a aimé. Il dit, cela va permettre aux gens qui aiment mes chansons de pouvoir les entendre à nouveau au service d'une histoire d'amour que j'espère bonne.
Donc ça va pas parler de sa vie en fait.
Non, une toute autre histoire racontée à travers ses classiques. On nous promet une comédie musicale familiale. Le casting va commencer en avril. Alors on recherche, c'est la petite annonce qu'on passe, des acteurs-chanteurs et des grandes voix. Voilà, c'est ce que dit Roberto Siurleo.
Paul ?
Les répétitions, bah oui, grandes voix. Les répétitions et les premières, Paul, auront lieu à Lille.
Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer.
Je vais t'aimer, c'est le nom de cette comédie musicale basée sur les chansons de Michel Sardou. Elle sera donc lancée en septembre 2021. C'est-à-dire aujourd'hui en France, info exclusive du journal Michel Sardou qui fêtera ses 72 ans dimanche.
Merci beaucoup. Bah,
je prendrai des vacances en avril pour aller passer les castings.
Ah. Vous avez raison. Oui. Même pour moi, vous êtes tout indiqué.
Pour faire Michel Sardou.
Peut-être
non,
pas, Michel
pas Michel Sardou,
Sardou
mais
vous n'avez pas les
pour
cheveux
chanter.
Courts, mais oui.
Chanter du Sardou.
Faudra mettre la barbe sur la tête en fait.
Oui, c'est ça.
Paul,
bien.
On passe à vous.
Alors moi je vais vous parler d'une idée révolutionnaire qui pourrait révolutionner du coup le quotidien de
effectivement.
Tous les Français. C'est le site Combini dans sa rubrique Cuisine qui nous raconte l'innovation créée par David Fradel qui est développeur dans une start-up spécialisée dans la reconnaissance grâce à l'intelligence artificielle. En gros, son entreprise développe des solutions pour faire la différence entre deux objets similaires. Sauf que l'entreprise... Elle veut innover parce qu'elle considère que sur le web, on ne trouve que des exemples de comparaison peu ou pas originaux, les humains, les animaux ou les voitures. Et notre ami David, il va s'inspirer de sa région dans le Massif Central et du métier de ses parents pour lancer un Shazam. Vous savez, Shazam, c'est cette application qui reconnaît toutes les musiques. Un Shazam qui s'attaque à l'un des piliers de notre patrimoine gastronomique.
On fait du bon fromage au lait.
Oh la bonne idée!
Et oui, comment faire la différence entre deux fromages qu'on a sous les yeux, leur provenance, leurs caractéristiques? Eh bien, c'est l'objectif de cette nouvelle intelligence artificielle que certains veulent déjà rebaptiser Cheezam. Cheese pour fromage, en rapport.
Je crois qu'on avait compris.
À Shazam, voilà. Pour le moment, ce sont deux fromages de sa région qui ont lancé le mouvement, la fourme d'Ambert, et son pendant plus artisanal, la fourme de Montbrison. Après quelques recherches sur Google, il a sélectionné plusieurs images de fourme et les a glissées dans son logiciel.
Et ça marche ?
Et le but de la plateforme, c'était de les différencier de manière autonome. Mmh. Et ça marche. Du coup, aujourd'hui, le but, c'est de développer l'application pour qu'elle puisse différencier d'autres fromages qui se ressemblent, Comté et Emmental par exemple, Bleu d'Auvergne et Roquefort, Cantal ou Salers, ou Brinemont et Bride-Melun, avant, pourquoi pas, de développer ça à d'autres aliments.
Du fromage et du pain, du laurier et du thym, des pommes et du raisin et de la ciboulette.
Il faut savoir un truc, c'est que sur chaque sujet d'actualité, il y a une chanson de Bourvil.
Incroyable.
Et là, il y en a même deux.
Il y en a même deux, ouais.
C'est pratique.
Deux chansons sur le fromage de Bourvil.
Merci beaucoup, Paul Lassène. Ombline Paul, j'aimerais ce matin vous emmener dans un champ à la nuit tombée. Alors, dit comme ça, ça paraît bizarre.
C'est prometteur. Moi,
mais faites-moi confiance, tout va bien se passer. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Jouez le jeu. Nous sommes donc la nuit, en été, et nous sommes allongés dans l'herbe, en train d'admirer les étoiles. Quand soudain, un énorme logo lumineux à l'effigie d'une marque de soda surgit au milieu de la voûte céleste. Impossible, me dites-vous. Eh bien, plus pour longtemps. Le magazine Science et Vie nous apprend ce matin que plusieurs sociétés travaillent d'arrache-pied pour transformer notre ciel en publicité géante. Et ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Alors on ne parle pas là de banderoles tractées par un avion au-dessus de la plage.
Ça, c'est, limite, c'est vintage. Oui, c'est dépassé.
Totalement dépassé.
Ouais, c'est vintage.
Là, ce seront des nanosatellites qui seront utilisés. Des petits cubes de la taille d'une boîte à chaussures qui, une fois dans l'espace, déploieront chacun une voile réfléchissant la lumière du soleil située derrière l'horizon. Chaque voile ouverte jouerait en fait le rôle d'un pixel lumineux sur le fond noir du ciel, permettant ainsi de former des logos ou des messages. Alors il faudrait pour cela une flottille de 200 à 300 nanosatellites espacés d'une centaine de mètres. Et c'est le projet de la société russe Start Rocket qui prévoit de lancer l'année prochaine un premier essaim de satellites destiné ni plus ni moins à ruiner nos soirées à la belle étoile. Et signe que cela n'a rien de loufoque, la marque de soda Pepsi a d'ores et déjà passé un contrat. Et cela inquiète énormément, et on peut les comprendre, les scientifiques, les astronomes, qui craignent en raison de cette nouvelle pollution lumineuse de ne plus pouvoir observer les étoiles et accessoirement les astéroïdes qui pourraient potentiellement nous tomber un jour sur la tête. Quand la pub investit l'espace, c'est à lire dans l'excellent magazine Science et Vie.
Ça change de Batman.
Bah oui, le logo qui est un projecteur. Ouais.
Excusez-moi, j'avais pas la référence.
L'appel à Batman.
Oui. Oui,
projecteur.
Mais là, c'est sur les nuages.
Ouais.
Ouais.
C'est vrai que Batman ne sort que quand il fait mauvais.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ouais, absolument. Ouais.
On fera pas mieux pour un vendredi. Je pense que je vais aller me coucher, moi.
Ouais.
Batman ne
c'est
sort
une
jamais.
Bonne idée.
Et je reviendrai pas lundi, surtout.
Si, vous allez revenir lundi, sinon vous ne serez pas augmenté le mois prochain. Le pressing, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Paul Lassène et merci Ombline Rush.
Avec plaisir.
Et donc à lundi, Paul. Europe 1. Allez, restez avec nous dans un instant. On va prendre des nouvelles de Frédéric, notre boulanger niçois. Les doigts dans l'assiette, c'est dans une minute sur Europe 1.
Il est 5h24 sur Europe 1, les doigts dans l'assiette, le quotidien de ceux qui nous font manger.
Bonjour Frédéric Roy.
Bonjour à tous les auditeurs, bonjour Julien.
Vous allez bien ?
Alors ben ouais, nickel, hein, comme tous les jours. Hein,
alors,
prêt, hein,
vous êtes notre boulanger niçois et vous faites pas de la publicité, pas encore dans l'espace, vous. En revanche, vous êtes une petite star du web depuis quelques jours, si je m'abuse.
Non, disons que j'ai la société Brut qui a souhaité faire un peu un retour puisqu'il m'avait interrogé il y a 2 ans sur ma démarche pour la labellisation du croissant, tout comme la baguette tradition, et ils voulaient savoir un petit peu où est-ce qu'on en était 2 ans plus tard. Donc ils sont venus filmer, on va dire, il y a une dizaine de jours. Ils ont sorti la vidéo il y a un petit peu plus de 24 heures, et c'est vrai que j'ai regardé ce matin, il doit y avoir 1 900 000 vues, quelque chose comme ça.
Ah oui, quand même.
Ouais, ah oui, ouais, c'est juste. Ah oui, non, mais c'est énorme.
Vous
c'est
êtes
énorme,
en passe de devenir un YouTuber.
Non, pas vraiment. Moi, je regarde plutôt le côté que ça veut dire qu'il y a presque 2 millions de personnes qui l'ont lu, qui prennent conscience de la réalité des choses,
de votre message,
de votre métier. Et c'est ça l'essentiel et le plus important, c'est qu'on puisse faire la différence, encore une fois, entre les produits industriels et les produits artisanaux. Donc, s'il pouvait y avoir encore plus de monde et si l'ensemble des Français pouvaient s'en rendre compte, peut-être que ça ferait prendre conscience à nos gouvernements qu'il faut enfin légiférer sur nos métiers pour qu'on puisse continuer de les faire encore longtemps, on va dire.
Alors cette vidéo, je vais la relayer tout de suite sur les réseaux sociaux d'Europe 1. Mais qu'est-ce qui a changé en 2 ans ? Parce que là, vous faites le parallèle sur la première vidéo et ensuite la deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne le croissant ?
Alors la vraie évolution, c'est justement cette prise de conscience des Français. Ce qu'on voit de plus en plus de monde, qui posent des questions. Est-ce que c'est du fait maison? Est-ce que ça n'en est pas? Notre démarche qu'on a faite, puisque depuis on s'est monté donc avec Michel Corneille en association, donc on a fait prendre encore plus largement conscience, ce qui a fait réagir aussi un peu le syndicat de la boulangerie. Ça les a réveillés, puisque ça fait 30 ans qu'ils dormaient, on commence à les réveiller. Donc eux aussi commencent à chercher des idées, à aller plus loin. Donc d'une manière générale, on a lancé une locomotive, on va dire. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on commence d'avoir des wagons qui s'attellent à notre locomotive. Donc, on va dire, je pense qu'on est en bonne voie, surtout prochainement, comme je vous l'avais déjà expliqué, on a un député européen qui va poser la question dans les semaines, c'est du concret, qui va poser des questions au Parlement européen pour faire changer justement le droit en matière d'étiquetage dans les boulangeries-pâtisseries, de manière à ce que les clients ne se fasse plus escroquer, ne se fasse plus flouer, on va dire. Et du coup, le client, parce qu'encore une fois, le souci, c'est pas de savoir si on achète de l'industriel ou de l'artisanal. Moi, tout me va très bien. L'essentiel, c'est que le client sache ce qu'il achète, et ça, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on peut considérer qu'il y a de la tromperie, parce que je vois pas d'autre mot à ça. Si je vous vends un croissant industriel que je vous laisse entendre qu'il est artisanal, je vous escroque, en fait, Julien.
Absolument, mais c'est la traduction de la loi, tout simplement. Au doigt mouillé, très rapidement, aujourd'hui, dans les boulangeries françaises, la part de croissant industriel.
Sur le marché français, on a 80% des viennoiseries qui sont d'origine industrielle.
80%.
Ça comprend tout, attention.
Oui, oui, ça comprend.
Petite surface, boulangerie, 80% des viennoiseries sont d'origine industrielle. Et c'est ce pourquoi je me bats. Il y a presque trois, quand j'ai lancé justement ces chiffres et la démarche, beaucoup sous-entendaient que c'était pas vrai, mais eux aujourd'hui reprennent ces chiffres-là également, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était la stricte vérité et que si on changeait rien, on était mort.
Merci beaucoup Frédéric Roy d'avoir bien voulu être présent ce matin dans Les Doigts dans l'Assiette. Merci de votre disponibilité et passez un excellent week-end. Allez, la météo, Laurent Cabrol nous a rejoint. Laurent, comment les intempéries évoluent ?
Voilà, les intempéries elles-mêmes évoluent plutôt bien, puisqu'elles se déplacent maintenant, elles se décalent en perdant d'intensité vers les régions du sud-est. Mais surtout, je voudrais parler ce matin de tous ceux d'entre vous qui vont affronter les grèves, et surtout en région parisienne. Je serai un peu chauvin en parlant un peu plus de la région parisienne, chers amis, vous le comprenez, puisque vous serez pour beaucoup à pied. Il fait entre 0 et moins 1 degré en région parisienne à l'heure où nous parlons. Et les pluies, il n'y en aura pas. Il y aura simplement un ciel brumeux couvert ce matin et quelques éclaircies cet après-midi. Alors revenons à nos intempéries. Il pleut en ce moment à Montpellier, à Béziers, à Millau. Les pluies vont gagner la Provence, la Côte d'Azur, mais sans intensité. Le Gard aussi. Et ces pluies vont remonter ensuite vers la région Rhône-Alpes et l'Auvergne. Pour d'autres raisons, le temps est maussade à l'ouest, sur le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, le sud de la Bretagne, la Loire-Atlantique, des pluies qui seront présentes dans ces contrées en fin de journée. Et puis sur les autres contrées, eh bien, disons que le ciel sera plutôt serein. J'y reviendrai tout à l'heure.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est l'heure de votre journal et c'est l'heure d'écouter Le Monde changer.
Europe 1, il est 5h30.
On a régulièrement des suspicions de maladies infectieuses émergentes, donc c'est presque de la routine d'accueillir des patients suspects de maladies infectieuses émergentes dans nos établissements de santé de référence.
La France prête à affronter d'éventuels cas de contamination au virus chinois. Reportage au CHU de Rennes dès le début de ce journal.
La réforme des retraites en Conseil des ministres, les opposants de nouveau dans la rue, des perturbations sont à prévoir dans de nombreux secteurs.
Boeing à la relance aujourd'hui, l'avionneur américain veut redorer son blason et ça passera par le vol inaugural de son dernier né, le 777X.
Après ce journal, les sports avec Jérôme Lacroix et l'hommage d'un biathlète français à son père, disparu dans un accident de motoneige au Canada.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pas d'urgence mondiale décrétée, la Chine se confine, mais l'épidémie se répand. Un deuxième décès vient d'être confirmé en dehors de Wuhan, où elle s'est déclarée. 26 morts désormais et plus de 800 personnes touchées.
Pas de cas suspect pour l'instant dans l'Hexagone, mais en cas de suspicion, 10 hôpitaux seront en première ligne. Et parmi ces établissements dits de référence pour la prise en charge des maladies infectieuses émergentes, le CHU de Rennes, où François Coulon s'est rendu pour Europe 1.
Nous sommes dans la chambre 13 du centre des maladies infectieuses, fenêtre totalement hermétique. C'est ici qu'un éventuel porteur du coronavirus sera placé à l'isolement, le professeur Mathieu Reveste.
S'il émet du virus dans l'air environnant, de toute façon, l'air va être aspiré par des filtres spécifiques pour piéger les micro-organismes et les détruire. Ils ne peuvent pas sortir de l'extérieur de la chambre pour aller contaminer l'environnement.
15 médecins et une cinquantaine d'infirmiers et aides-soignants experts en maladies infectieuses pourront prendre en charge des malades en contact avec le virus chinois.
On a des entraînements avec des simulations deux fois par an. L'arrivée massive de patients, c'est une éventualité qu'on envisage tout le temps. Il y a des systèmes de tentes à construire très rapidement, etc. Mais avec la surveillance qui est faite actuellement, l'idée d'un nombre massif de malades qui dépasserait le système de santé, c'est plus de la science-fiction et du cinéma que de la réalité.
Vous êtes en train de réviser, là ?
On a régulièrement des suspicions de maladies infectieuses émergentes. Donc, c'est presque de la routine d'accueillir des patients suspects de maladies infectieuses émergentes dans nos établissements de santé de référence.
Le professeur Revest a reçu ces derniers jours quelques coups de fil inquiets. Aucune raison de paniquer, dit-il. Nous avons vraiment les moyens de faire face. Rennes, François Coulon, Europe.
Et aux États-Unis, peut-être un deuxième cas repéré. Un étudiant du Texas qui revenait de la ville de Wuhan. Résultat d'analyse attendu demain.
Les opposants à la réforme des retraites veulent marquer le coup alors que le texte est présenté ce matin au Conseil des ministres.
Septième journée de manifestation ce vendredi. De nombreux secteurs seront impactés. Lesquels ? Réponse avec vous, Maud Descamps.
Du côté des transports, très peu de perturbations à la SNCF. Les TGV, Ouigo, Thalys et Eurostar circuleront normalement aujourd'hui et il y aura 7 TER sur 10. À la RATP, en revanche, 12 lignes de métro seront très perturbées. Dans les transports aériens, peu de perturbations, même si les contrôleurs aériens devraient se joindre au mouvement. En revanche, chez les enseignants, le SNES-FSU premier syndicat s'attend à un rebond de mobilisation. Entre les blocages des lycées ces derniers jours, contre les épreuves de contrôle continu, l'annonce d'un budget en baisse pour l'an prochain et la réforme de retraite, ça commence à faire un cocktail explosif, estime le syndicat. Autre secteur très mobilisé, celui de l'énergie, avec des opérations de filtrage à l'entrée de chaque centrale EDF. La CGT a aussi prévenu qu'il y aurait d'autres coupures sauvages d'électricité. Il y aura également une nouvelle opération port-mort. Le mouvement de grève devrait aussi toucher les crèches. Certaines seront fermées. Même chose dans les cantines. Et enfin, certains supermarchés, mais aussi la restauration rapide, devraient également être impactés.
Et la CGT Énergie a aussi annoncé l'arrêt des 3 incinérateurs d'Île-de-France, menaçant de saturer la chaîne du traitement des déchets de 6 millions de Français.
Europe 1, il est 5h33.
C'est un nouveau chapitre que Boeing entend ouvrir aujourd'hui. Toujours plombé par les difficultés de son 737 Max, l'avionneur américain met aujourd'hui en piste son dernier appareil.
Le 777X, dont le vol inaugural est prévu aujourd'hui à Seattle, et c'est au final bien plus qu'un simple vol pour Boeing. Les enjeux sont énormes. Pour Europe 1, Aurélien Fleureau.
Ce n'est que le premier vol d'essai d'une longue série dans une période d'au minimum 18 mois avant la mise en service commerciale. C'est donc habituellement presque une formalité dans la vie d'un constructeur d'avions. Sauf que là, pour Boeing, c'est enfin une manière de démontrer qu'ils ne sont pas totalement paralysés par la crise du 737 Max, explique Eric Schulz, spécialiste de l'aérien.
Pour Boeing, l'importance aujourd'hui est vraiment grande. Le fait de pouvoir, j'irais un peu, divertir la tension et de montrer une note positive avec le remplacement d'un avion qui a été un fantastique succès, qui était le Boeing 777-300ER. C'est une étape importante pour restaurer un peu la crédibilité et l'image de Boeing.
Largement dépassé par Airbus et sa gamme d'A320neo sur le secteur clé des moyens courriers, Boeing veut donc démontrer qu'il reste une place forte sur le long courrier. Encore plus avec la fin annoncée de l'A380. Première livraison dans un an et d'ici là, le carnet de commandes affiche déjà 340 unités.
Et c'est un conflit entre Boeing et Airbus dont la filière viticole française paie les pots cassés, victime d'une surtaxe américaine de 25%. Résultat, une baisse des ventes en volume de 15% en novembre. Baisse qui atteint même 46% pour les vins de Bordeaux qui demandent le soutien de l'État.
Elle a été l'artiste la plus programmée dans les festivals l'an dernier. Suzanne, avec un seul N, sort son premier album aujourd'hui.
Et à 28 ans, elle n'a pas fini de faire parler d'elle, d'autant qu'elle est aussi nommée aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation scène. La chanteuse sait aussi faire le show, Angèle Châtelier.
Lors de ses concerts sur scène, il n'y a qu'un synthétiseur et c'est tout. C'est elle, Suzanne, qui occupe l'espace, toujours vêtue d'une veste bleue et blanche, comme pour jouer un rôle dès qu'elle se présente au public, ici au Festival des Vieilles Charrues.
Est-ce que t'es là, les charrues ?
Mais cette avignonnaise de 28 ans est une habituée du spectacle. Suzanne a fait de la danse classique pendant 15 ans, ce qui n'a pas toujours été un bon souvenir, à en croire son titre « Pas beau », réminiscence de ses mercredis au conservatoire lorsqu'on lui reprochait le moindre kilo en trop. Ses chansons rythmées comme celle de Stromae parlent aussi bien de harcèlement que de l'homophobie ou des réseaux sociaux.
Ta vie en scène, c'est qu'une mise en scène ta vie.
La première fois que Suzanne est montée sur scène, on lui a dit Toy Toy. C'est une expression tirée de l'allemand pour souhaiter bonne chance. Et c'est aussi le nom de son premier album, comme pour s'encourager à aller vers le succès.
On a cassé la planète, il est où le sauver ?
Eh bien, Toy Toy alors pour Suzanne. Bonne chance à Suzanne et ce premier album Toy Toy qui sort aujourd'hui.
Toy Toy, Marion Calais. Et ouais. Merci. Dankeschön.
À tout à l'heure.
Hein, pour ce journal. À tout à l'heure. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, le journal des sports de Jérôme Lacroix, où l'on parlera de ce biathlète dont le père est porté disparu au Canada avec quatre autres Français. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 5h37. Et c'est l'heure du journal des sports.
Merci beaucoup, Ombline, pour nous avoir donné l'heure. Ce qui laisse le temps à Jérôme Lacroix de remonter son siège, parce que Marion Calais a pris l'habitude, fâcheuse, je dois l'avouer, de le baisser au minimum. À la une, mon cher Jérôme, ça y est, c'est bon, vous êtes au niveau. L'hommage d'un fils.
Il a skié pour le meilleur et pour le père. C'est l'histoire de Fabien Claude, 25 ans, l'un des bleus du biathlon, aux côtés de la star Martin Fourcade. Hier, Fabien Claude, pour la première fois de sa vie, il est monté sur un podium en Coupe du Monde. Il est arrivé 3e de l'épreuve individuelle à Pokljuka, en Slovénie. Ce podium, il l'a dédié en larmes à son père, qui est l'un des 5 touristes français disparus depuis mardi au Québec lors d'un accident de motoneige.
Ben, je suis hyper satisfait de ma course, j'avais tellement de choses dans la tête depuis hier soir et voilà, on a décidé de prendre le départ et avec Florent et je suis content de lui rendre hommage de cette façon, voilà, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus plus, mais en tout cas c'est aujourd'hui ce podium, il est pour lui et je suis sûr qu'il est fier de nous et en tout cas je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui.
L'émotion du biathlète Fabien Claude qui s'exprimait hier sur la chaîne L'Équipe. C'est le Norvégien Johannes Bø qui a remporté la course d'hier. Il est de retour de 2 semaines de congé paternité. Martin Fourcade a fini 2e. Le grand show ce soir à Paris, les Bucks de Milwaukee affrontent les Hornets de Charlotte. On parle de NBA, premier match de la saison régulière du prestigieux championnat nord-américain de basket organisé en France. 15 000 personnes attendues à Paris-Bercy. Il y avait eu 100 000 demandes de billets.
La personnalité du jour.
Bah Gaël Monfils, j'ai envie de dire presque forcément. L'hécatombe française qu'on redoutait hier à ce même micro est survenue. Pire bilan depuis 15 ans à l'Open d'Australie de tennis. Un seul bleu au 3e tour. Gaël Monfils, donc, il jouera la nuit prochaine face au Letton Gulbis. Réaction depuis Melbourne du directeur technique français Pierre Chéret. Fiasco prévisible, dit-il, parce que les bleus sont depuis des mois prisonniers d'un cercle vicieux.
Il ne faut pas s'attendre à mieux aujourd'hui quand on n'a pas de joueurs ou très peu de joueurs et de joueuses, enfin joueuses on avait zéro, qui sont tête de série. L'étape numéro 1, c'est entre maintenant et Roland-Garros. Il faut grappiller une place de tête de série. Je pense que c'est là que ça passe. Et après, on peut se dire, voilà, je peux aller au 3e tour parce que je vais jouer des joueurs qui, au classement en tout cas, sont moins forts que moi. Donc c'est frustrant, c'est rageant, ça ne tourne pas en notre faveur.
Et à l'instant, du côté des matchs qui se tiennent en ce moment, l'élimination de l'américaine Serena Williams face à la chinoise Wang en 3 manches. Par ailleurs, à venir dans cette matinée, Novak Djokovic ou encore Roger Federer.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix.
Europe 1, il est 5h40.
Et c'est l'heure des courses avec les pronostics du Quintet signé Thierry Léger. On va où cet après-midi Thierry?
C'est sur l'hippodrome de Pau que va se disputer ce Quintet qui a réuni un lot homogène de 15 sauteurs et non 16, puisque le numéro 16 est non partant. Pour bâtir mon pronostic, j'ai sélectionné les chevaux ayant fait l'arrivée d'un quintet similaire le 2 janvier sur le parcours qui nous intéresse avec Deo Gracias, le numéro 9, Soldier's Queen, le numéro 13, Violon de Bréjoux, le numéro 5 et Monet Marthe, le numéro 12, classés dans cet ordre au 2e, 3e, 5e et 6e place. Derrière ces 4 indissociables, méfiez-vous des numéros 6, Alnatop, 3, Yaya John, 4, Saint-Corneille et 7, Eddie Boom, perfectibles et qui partiront avec la confiance de leur entourage respectif. Mon pronostic, 9, 13, 5, 12, 6, 3, 4, et 7.
Pronostic à retrouver sur notre site europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain dans l'excellente matinale de Bernard Porrette.
Europe 1, Julien Pierce.
Telsa vient de dépasser le seuil des 100 milliards de dollars en valorisation boursière. La marque américaine de voitures électriques passe à la bourse devant Volkswagen et devient le deuxième constructeur mondial en valeur derrière Toyota. Pour en parler, Julien, votre invité, François Tarin, rédacteur en chef adjoint du magazine Auto Plus.
Bonjour François Tarin.
Bonjour.
Cette valorisation boursière, c'est totalement artificiel ou ça veut dire que les voitures électriques sont bien parties pour détrôner les thermiques ?
Bon, on parle de bourse, donc il y a une part d'artificiel, de spéculatif et de les bonnes nouvelles font monter l'action, les mauvaises la font baisser, sont toujours une réalité économique derrière ces évolutions. Mais là, le signal est plutôt bon. C'est vrai que Tesla a essuyé de nombreuses tempêtes ces dernières années, avec des objectifs non atteints, des chaînes de production qui n'arrivaient pas, trop robotisées, qui ne fonctionnaient pas bien, des objectifs de production qui n'étaient pas atteints. Et puis là, un premier trimestre de bénéfices l'an dernier, des objectifs de vente sur le dernier modèle, la Model 3, qui sont prometteurs. Et donc un seuil symbolique qui plus est, la bourse aime les symboles des 100 milliards de dollars de valorisation, qui mettent les voyants, si ce n'est au vert, en tous les cas, qui donnent une perspective plus positive à Tesla dans les mois et les années à venir.
Pour autant, est-ce que Tesla est à l'abri d'un accident industriel ?
Ah, grande question. Les frasques de son patron...
Elon Musk.
Voilà, un simple tweet, des déclarations, une séquence à la radio qui fera date. On suffit à faire plonger l'action. On n'est pas à l'abri, effectivement, si c'était d'un incident industriel, mais de mauvaises nouvelles, que ce soit des résultats, des ventes qui ne suivent pas, un outil de production qui n'est pas aussi efficace que prévu. Rien n'est acquis. C'est une boîte qui vend du rêve, qui vend un avenir de l'automobile à la fois électrique et autonome, qui, pour une part de l'équation, semble bien partie. La voiture électrique chez Tesla, c'est devenu un produit abouti. La voiture autonome, c'est pour plus tard. Il y a aussi les autres développements de la société qui part un peu dans tous les sens. Mais là, on sent qu'ils ont plus les pieds sur terre avec l'électrique, qui représente un tiers des ventes en Europe. C'est la deuxième meilleure vente en France l'an dernier. Je ne parle pas du reste du monde, mais les usines de batteries installées en Chine, bientôt en Allemagne, qui permettent à Tesla de maîtriser son outil de production de A à Z, à la fois sur la voiture mais aussi sur la batterie, qui est une partie extrêmement importante et coûteuse. Voilà, on sent en fait que Elon Musk s'est remis un petit peu complètement dans la perspective de développer sa société. Il a été un peu, comment dire, bridé par les actionnaires pour ne plus se faire de grandes déclarations qui peuvent porter préjudice à la société et se recentrer sur ce qu'il sait faire, c'est développer son produit et l'outil industriel, et ça semble porter ses fruits.
François Tarin, en France, les voitures électriques, c'est environ 2% des ventes aujourd'hui, mais ça a quand même progressé de près de 38% l'année passée. Est-ce que ça veut dire que l'électrique est en train de se démocratiser chez nous ?
L'électrique est en train de se faire une place en France, effectivement, toujours comme deuxième voiture, toujours avec des subventions et à marche forcée, parce que c'est le moyen le plus simple mis à la disposition des constructeurs pour atteindre des objectifs d'émissions de CO2 observés par l'Europe, ambitieux pour 2020. Donc la voiture électrique, c'est une réalité, c'est une gamme de produits aujourd'hui relativement aboutie, mais avec des autonomies qui sont encore perfectibles, mais ça n'est pas la direction vers laquelle les constructeurs seraient peut-être allés de manière aussi rapide et profonde s'il n'y avait pas eu de contraintes fixées par l'Europe pour baisser les émissions de CO2 des voitures vendues.
Donc, alors, j'ai juste précisé cette contrainte, c'est que depuis le 1er janvier, l'Union européenne impose à chaque constructeur que l'ensemble des voitures qu'il vend ne dépasse pas une moyenne d'émission de 95 grammes par kilomètre, sous peine de grosses amendes. Hein. Je crois que ça peut se chiffrer en milliards d'euros d'ici la fin de l'année.
Bah, il s'agit de mettre 95 euros de pénalité par gramme de dépassement et par voiture vendue dans toute l'Europe par constructeur. Je n'ai pas fait l'addition, mais ce sont des centaines de millions d'euros qui leur pendonnaient. Donc voilà, nécessité fait loi. Ils se sont imposés d'électrifier leur gamme à la fois par des hybrides rechargeables, mais également par des 100% électriques. Ensuite, il va falloir que le réseau de recharge suive, il va falloir que les bornes soient disponibles, il va falloir que les autonomies augmentent, il va falloir que le coût de la recharge n'explose pas, il va falloir beaucoup de choses, il va falloir recycler ses batteries en fin de vie lorsque ça arrivera. La voiture électrique n'en est qu'à ses débuts, ses évolutions sont spectaculaires mais elle part de très bas.
C'est super en ville pour un usage urbain et interurbain. Ça n'est pas encore la voiture qui sait tout faire. On peut pas s'en servir partout en France. Pour cela, l'hybride rechargeable est un produit plus cohérent. Le 100% électrique, par contre, c'est vrai que 0 g de CO2 pour atteindre des objectifs de CO2, sachant que les ventes d'électriques comptent double dans les calculs de l'Europe, c'est un petit peu la solution miracle pour ne pas se faire pénaliser par l'Europe.
Et qu'en est-il de nos constructeurs français, notamment PSA, qui semble avoir pris beaucoup de retard sur l'électrique et même l'hybride ?
Alors les Français sur l'hybride, effectivement, ils n'y ont pas cru au début, ils n'y sont pas allés, contrairement notamment aux Allemands, mais aussi aux Japonais. Voilà, pour eux, c'était pas la voie. Renault était 100% électrique, PSA était très diesel jusqu'à ce que ça ne soit plus le sujet. Donc voilà, les Français prennent le train en marche avec de beaux produits, que ce soit l'i208, mais également le Captur chez Renault. Renault se fait un petit peu distancer sur l'électrique. C'est vrai qu'il y a maintenant d'autres produits qui sont compétitifs en termes de prix et d'autonomie. Le panel de voitures électriques dans la gamme de prix de la Zoé se développe. Donc les Français y vont. Ils aimeraient bien maintenant qu'ils font l'hybride rechargeable, que l'hybride rechargeable soit également subventionné par un bonus, qui n'est pour l'instant pas le cas. Tout va encore uniquement à l'électrique. C'est peut-être un mauvais calcul, parce que l'hybride rechargeable, pour le coup, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. À la fois un véhicule zéro émission en ville sur des autonomies relativement raisonnables, 30 ou 40 ou 50 km qui peuvent suffire au quotidien, et des moteurs thermiques qui peuvent permettre d'aller un peu n'importe où en France. Mais pas de bonus, donc un frein à l'achat, parce que ce sont des véhicules qui restent chers, comme les électriques, mais les électriques ont, elles, 6000 euros de bonus.
Merci beaucoup François Tarin d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine Auto Plus, dont le dernier numéro paraît d'ailleurs aujourd'hui, avec notamment un dossier sur les hybrides. Encore merci et à très bientôt sur Europe 1.
Merci.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Omblin Roche, vous allez dans votre partition nous parler d'un groupe à la fois sombre et brillant.
Oui, sombre comme le noir, brillant comme le désir.
A tout de suite en musique sur Europe 1.
Enfin, il est 5h49, l'essentiel de l'actualité avec vous Julien Pierce.
26 morts, 830 cas, dernier bilan de l'épidémie qui sévit en Chine depuis le mois dernier. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas décrété hier d'urgence mondiale. La réforme des retraites présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Pour l'occasion, les opposants se mobilisent à nouveau. Perturbations attendues dans les transports et l'éducation notamment. Et puis, J-7 avant la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne. Hier, la reine a promulgué l'accord de Brexit.
Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
Allez, à 5h49 et 33 secondes pour être précis, il est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche, ce qui se cache derrière une chanson ou un artiste. Et ça sort aujourd'hui dans les bacs, un double album de Noir Désir. Alors pas de nouvelles chansons, mais des versions inédites. 11 titres en tout enregistrés en acoustique.
Et ce double album porte bien son nom, Julien. Il s'appelle Débranché et il nous offre une vision inédite de certains des plus grands succès du groupe. Cela fait 9 ans que Noir Désir n'a plus fait parler de lui. La dernière parution était une compilation.
Souffrance qu'on est bien en France, c'est l'heure d'échanger la monnaie.
Alors le premier disque de ce double album Débranché a été enregistré à Buenos Aires.
On l'entend, hein, c'est vraiment acoustique. En 97, c'était pendant une émission de télé, une escale en Argentine au cœur de la tournée 666-667 Club. Noir Désir interprète 4 titres arrangés spécialement pour l'occasion.
Un mot du contexte, Omblin, Noir Désir à cette époque est littéralement incontournable.
Le plus important groupe rock français en activité, dit le magazine Les Un Rock. Le disque 666-667 Club est un immense succès critique et commercial. Noir Désir gagne son étiquette de groupe engagé, il est surtout désormais respecté et pris au sérieux.
Gire de moi, l'ennemier de mon cerveau. Qui veut entrer dans la toile de mon réseau, parce que vous savez que je suis un homme baissé.
Parce que ça, ce sont les versions qui sont sur ce double album qui sort aujourd'hui. Alors vient la tournée, après la sortie de ce disque, hein, 666-667 Club, tournée en France, où le public déboule dans les salles de concert.
Pour éviter l'accumulation de dates, Noir Désir, débordé par sa popularité, accepte de jouer dans des salles plus grandes.
Et poussé par cette renommée grandissante, le groupe commence à s'investir dans diverses causes.
Des causes politiques, comme ce soutien à cette salle de concert, le Sous-Marin à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, une salle privée de ses subventions par la mairie française. Front National. matinale.
Y a-t-il un incendie prévu ce soir dans l'hémicycle? On dirait qu'il est temps pour nous d'envisager un autre cycle. On peut caresser des idéaux sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de là.
Alors en 2000, Noir Désir a déjà 20 ans et l'épuisement se fait sentir. Il n'est plus question désormais de jouer les révolutionnaires.
Après des escapades solo et des collaborations, Noir Désir entre en studio pour enregistrer ce qui sera son dernier album, Des Visages, Des Figures, un disque en rupture avec le rock énergique qui a fait sa réputation. Les compositions sont plus calmes, les sonorités plus novatrices, des textes introspectifs, une musique rock brute aussi rageuse que rêveuse.
La tournée Des Visages, Des Figures affiche complet et ce, des mois à l'avance.
Et sur scène musicale, elle confirme le virage amorcé avec l'album. Les vieux morceaux sont d'ailleurs relookés. Noir Désir, ici, à Milan, lors d'un enregistrement effectué pour une radio italienne.
Des visages, des figures. Des visages et des figures, des figurants à effacer. Des faces A, des faces B. À pas feutrer, à trait des formes inter. Malentendu entre les tours, c'est le fou qui était. Premier abord, hommage à mer, hommage à la mer, chaviré par-dessus le bord, des airs, des grands airs, tout entier, auxquels peuvent s'ajouter des oiseaux mazoutés. Des détails, jamais dans de qui j'ai douté des détails, jamais dans de qui. Des corps, des esprits me reviennent, des décors, des scènes, des arènes hantées, hantées. Faites comme chez vous, restez, mais si tout devient opaque. Ma reine, j'ai bien aimé ta paire de claques, et surtout l'an dernier. Des visages, des visages, des figures, des figurants effacés, des faces A, des faces B, des faces A. Face B, face A, face B. J'ai douté des détails, jamais dit dans de nu. J'ai douté des détails, jamais dit dans de nu. J'ai douté des détails. Jamais du temps de nu, j'ai douté des détails. Jamais du temps de nu.
Des visages, des figures sur Europe 1, la version acoustique inédite que vous retrouvez dès aujourd'hui sur le double album baptisé Débranché de Noir Désir, des visages, des figures comme le nom du dernier album du groupe sorti en 2001. Noir Désir se séparera après la condamnation en mars 2004 de Bertrand Cantat pour l'homicide involontaire. C'est la qualification qui a été retenue de sa compagne d'alors, Marie Trintignant.
Et je précise que si nous avons choisi de parler de la sortie de ce double album ce matin, c'est uniquement en raison de la qualité du répertoire de Noir Désir. Vous l'avez dit, Omblin, le plus grand groupe de rock des années 90 et 2000. Merci beaucoup, Omblin Roche.
Europe 1.
Dans un instant, votre matinale se poursuit avec toujours plus d'infos, de musique et de bonne humeur. Oui, parce qu'il est là, il a l'air en forme. Mathieu Béliard va vous raconter le monde changé. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1.